Dernière partie de notre entretien avec le philosophe Jacques Derrida autour de ce livre, Le concept du 11 septembre, dialogue à New York, octobre-décembre 2001 avec Giovanna Boradori, Jacques Derrida et Jürgen Habermas, dialogue donc à trois voix. C'est un livre publié aux éditions Galilée. J'aimerais, vous en disiez un mot tout à l'heure, avant la revue 13 de Marc Kravets, Jacques Derrida, qu'on reparte peut-être du Patriot Act, qui est cette loi qui a été prise dans le sillage du 11 septembre, portée par le ministre de la justice américain Ashcroft, et qui est une loi qui a tendu à diminuer, à revenir sur un certain, à suspendre un certain nombre de libertés publiques aux États-Unis. Et on a vu aux États-Unis très souvent après le 11 septembre un certain nombre de lois qui revenaient sur des acquis entre guillemets pourtant fondamentaux pour la démocratie. Est-ce que c'est ça le piège que tend le terrorisme à un régime démocratique?
Oui, c'est une question très grave. Je voudrais faire une réponse un peu compliquée. D'abord, évidemment, c'est un fait que cette décision de Patriot Act des États-Unis a autorisé légalement la police, le FBI, à intervenir dans des conditions qui jusqu'ici étaient considérées comme illégales. J'ai eu beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'exemples de telles interventions, beaucoup plus qu'on le croit en France, et qui limitent naturellement la démocratie, qui sont contraires à ce First Amendment qui est pour les tout Américain une sorte de loi absolue, n'est-ce pas, qui contredisent donc à la Constitution elle-même, donc c'est très grave, qui autorise le gouvernement à transgresser des règles juridiques, par exemple l'emprisonnement en Guantanamo, sans accès, sans que aucun avocat ait accès aux prisonniers. Toutes ces choses-là sont incontestablement des atteintes inquiétantes à la démocratie et même à l'esprit et à la lettre de la démocratie américaine. Et beaucoup d'Américains s'en inquiètent. Hein. Il faut le dire, et je veux rendre cet hommage aux Américains qui le font, que beaucoup d'Américains se sont engagés contre ces violations avec une détermination et une compétence qu'ils ont plus que nous. Donc, il y a là incontestablement un risque d'atteinte à la démocratie que ce qu'on appelle le terrorisme, et je me sers de ce mot aussi entre guillemets,
et vos mains font les guillemets là,
fait courir à toute démocratie, et c'est là que je voudrais compliquer la chose, et ne pas céder à des clichés. C'est que naturellement, on ne peut pas simplement condamner un régime, un État démocratique, ou qui se prétend démocratique, quand, pour se protéger d'attentats terroristes, il prend des mesures exceptionnelles. Ce serait irréaliste, ce serait angéliste et peu raisonnable. Donc, il y a là une contradiction, et ça vaut pour l'Amérique, ça peut valoir pour le monde entier, hein, pour l'Europe en particulier, pour la France en particulier. Il y a des cas où, naturellement, il faut exercer des contrôles qui peuvent passer pour attentatoire à la vie privée, pour des interventions, pour des écoutes téléphoniques. C'est le vieux problème, n'est-ce pas, des interventions de l'État, de la police d'État, pour protéger la démocratie. Alors là, il y a une contradiction, et il ne faut pas se le dissimuler, elle ne vaut pas seulement pour les États-Unis, et moi je prends... je suis tenté à la fois de prendre la défense des droits démocratiques, mais en même temps, de ne pas être simplement sourd au discours discours policier, disons, discours de l'État qui est garant de la sécurité.
La sécurité du citoyen est un droit aussi. Hein.
Alors là, il n'y a pas de recette générale. Il faut, au coup par coup, que chaque gouvernement qui se veut démocratique prenne la responsabilité de menacer le moins possible les libertés démocratiques. Pour être le plus efficace possible. Et là, il n'y a pas de recette. Il faut, c'est ça, la sincérité et le sens des responsabilités des responsables politiques, de l'armée, de la police, pour faire que on assure le maximum de sécurité en violant le moins possible. Là je n'ai pas de conseils politiques à donner. J'ai pas de conseils technique à donner, seulement un appel à la responsabilité et au sens de, démocratique qui n'est pas finalement si répandu que ça. Donc on peut appeler à cette transaction. Vous savez, certains aux États-Unis ont parlé, et très sérieusement, des risques de dérives qui seraient plus graves qu'à l'époque de McCarthy. Et j'en ai eu quelques signes, je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais j'ai eu quelques signes de cela. Dans les universités, on ne pouvait plus parler librement. Qu'il s'agisse d'ailleurs du problème du terrorisme proprement dit, et du 11 septembre ou de l'Irak, mais qu'il s'agisse aussi du problème israélien, palestino-israélien, où il y a là aussi des passions qui s'enflamment, et telles que, dans les universités même, certains se sentent moins libres de prendre parti ou de dire ce qu'ils pensent. Donc ça, c'est très grave. La réponse politique celle de la responsabilité démocratique, c'est de transaction, de compromis.
Vous disiez tout à l'heure, Jacques Derrida, que considérant ce qu'est le terrorisme aujourd'hui, mettons les guillemets encore, considérant ce qu'est le terrorisme aujourd'hui, le fait que il soit créateur de situations de violence non conventionnelles par rapport à ce que peut être une guerre, quand on vous entend décrire le piège, en quelque sorte, que le terrorisme tend à la démocratie, avec la possibilité réelle, vous en donniez des exemples, d'une régression démocratique. Très difficile de trouver la réponse politique quand on tient compte de ces deux éléments.
C'est très difficile, oui. C'est très difficile.
Terrible responsabilité politique.
Mais c'est en même
politique.
Temps, c'est difficile et c'est en même temps le lieu de la responsabilité. C'est là qu'il faut que chacun, alors je parle de chaque citoyen, mais aussi chaque responsable politique, prenne une responsabilité singulière devant cette situation, ces menaces. Et quand je dis auto-immunité ou pratique suicidaire, ça ne vaut pas seulement du côté des démocraties occidentales. Ça vaut aussi du côté d'où vient, pense-t-on, le terrorisme. C'est-à-dire que la nébuleuse Al-Qaïda Bin Laden ne met pas seulement en danger les démocraties occidentales ou les infidèles, puisque leur seul motif, leur seul ennemi, c'est l'infidèle. Ce n'est pas un État ni une politique, ils n'ont pas de programme politique. C'est l'infidèle. Mais ils nuisent gravement à aux peuples, aux nations, aux individus qu'ils prétendent représenter et défendre. C'est que les Arabes et les musulmans, les arabo-musulmans, souffrent beaucoup sur des plans divers des effets de ce terrorisme. Mmh. Non seulement parce que l'opinion publique les incrimine souvent injustement, notamment parce qu'ils sont réduits au silence. Alors je parle aussi bien de tous les Arabes et les musulmans qui condamnent le terrorisme, ils sont très nombreux. Je pense aux Palestiniens qui condamnent un certain type de terrorisme, même s'ils sont pour l'État palestinien, qui condamnent par exemple les attentats suicides. Je pense aux Israéliens qui condamnent un certain terrorisme d'État. Bon, et donc la souffrance est infligée non seulement aux supposés ennemis, mais aux supposés amis ou à ceux qu'on prétend protéger ou représenter.
C'est-à-dire qu'elle traverse les camps, tous les camps. Il y a de la tragédie à tous les espaces.
Ça traverse tous les camps. C'est pourquoi ce mot, sinon ce concept d'auto-immunité que dans beaucoup de textes récents j'ai généralisé, me paraît justement généralisable, c'est-à-dire être à l'œuvre partout. Dans toute politique, il y a un élément, un risque de pulsion de mort, de pulsion suicidaire, plutôt, n'est-ce pas, qui fait prendre des décisions contraires à son propre intérêt. Je le dirais des États-Unis, qui ont fait des choses en Irak qui sont en train de se retourner contre eux, et qui étaient prévisibles. Je pense à la politique du gouvernement israélien, à certains aspects des actions terroristes palestiniennes. Je pense, alors, pour revenir en France, à la politique de Monsieur Raffarin, qui va...
De quelle manière?
Écoutez, je crois que en limitant le budget de la recherche, en ne faisant pas ce qu'il faut pour l'éducation, et pour la culture, en ne réglant pas le problème des intermittents, etc., 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 et en ne faisant pas ce qu'il faut pour la santé publique. Ce gouvernement fait des erreurs politiques contre lesquelles on peut prendre un parti politique, c'est mon cas, mais fait aussi des erreurs, ce que j'appelais ailleurs des erreurs de niaiserie, quant aux propres intérêts de la politique néolibérale qu'il prétend représenter. C'est-à-dire que il ne se rend pas compte que pour la productivité, pour la rentabilité, pour le marché et les entreprises françaises, il est bon que la recherche scientifique se développe. Pour la santé publique, il est bon que la recherche scientifique se développe. Il est bon que l'éducation ait tous les moyens. Bon, ça, c'est ce que j'appelle auto-immunité, c'est-à-dire que politique suicidaire, même du point de vue de ses propres intérêts. Parce que ça veut dire auto-immunité, pour qu'on s'entende bien, la capacité mystérieuse qu'ont des organismes biologiques à détruire leur propre protection. Donc il s'agit de destruction, d'autodestruction.
Revenons, Jacques Derrida, un instant à une question qu'on trouvait dès le début de cet entretien, qui est la question du temps. Il y a une temporalité très particulière, très spécifique dans l'événement terroriste, c'est ce que vous décrivez dans ce livre dont on parle ce matin, une temporalité très particulière, qui est une sorte de temporalité ouverte et au futur. Le pire est toujours pour demain, le pire est toujours à venir, dites-vous dans ce livre. Qu'entendez-vous par là?
Oui. Ce que je suggérais dans cet entretien, c'est que le traumatisme pour les Américains, mais aussi pour le monde entier, d'après le 11 septembre, ne tenait pas tant à ce qui s'était passé, et que si on leur avait dit, si on nous avait dit, bon, il y a eu 3 ou 4 000 morts, mais c'est fini, ça ne se reproduira plus. Au fond, des 3 ou 4 000 morts, il y en a eu beaucoup, et pendant la première guerre, la deuxième guerre mondiale, et après, et le Rwanda, le Cambodge, la Yougoslavie, et bon. Mais le traumatisme, et là il faut repenser la valeur du traumatisme, même du point de vue psychanalytique, le traumatisme tenait à l'ouverture à l'avenir de la blessure. C'est-à-dire que ça peut recommencer et en pire. Et le pire, ça veut dire que on n'a pas ça a été confirmé depuis, à Madrid et ailleurs, on n'a pas de défense organisée contre, naturellement, des détournements d'avions sur le sol même du pays attaqué. On n'a pas de défense sûre contre les armes bactériologiques, chimiques et atomiques, dont on sait que la dissémination est maintenant incontrôlable. On n'a pas de défense assurée contre ce que j'appellerais les agressions informatiques, c'est-à-dire que l'introduction dans un système informatique, le parasitage,
virus,
le démembrement, on sait très bien que ça peut provoquer un chaos, ou en tout cas ou une paralysie dans tous les domaines, dans le domaine de la transmission politique, de la stratégie militaire, des communications, de l'électricité. Bon, on sait aujourd'hui, qu'étant donné le progrès de cette technologie, qu'une intervention très discrète et silencieuse peut provoquer le pire. Une simple panne d'électricité, par exemple, est aujourd'hui dans les grandes métropoles une catastrophe sans mesure. Bon. Alors, tout le monde a pris conscience de ce que l'avenir pouvait réserver, là où il n'y avait plus un État adversaire. Quand l'URSS était l'adversaire, là il y avait une théorie des jeux qui faisait que chacun mesurait ses forces et contrôlait, et contrôler, n'est-ce pas, l'enjeu et le jeu.
Équilibre de la terreur.
Équilibre de la terreur. Là, l'équilibre est rompu parce que on n'a plus affaire à un État, à une guerre. C'est plus une guerre entre États. C'est même plus du terrorisme au sens de, je disais tout à l'heure, de la théorie des partisans, comme dit Schmitt, c'est-à-dire où des groupes terroristes veulent, comme la résistance française, qu'on qualifie de terrorisme, veulent conquérir un État ou libérer un État. Et donc la menace est tellement indéterminée, tellement ouverte et tellement effroyable, que le traumatisme reste et les effets du traumatisme restent là, et resteront malheureusement longtemps, je dirais quasiment indéfiniment. C'est ça l'avenir, c'est ça. Alors c'est ça l'événement. C'est dans la mesure où il y a de l'avenir qu'il y a de l'événement. Hein. Et l'événement, ça peut être le meilleur ou ça peut être le pire.
Vous êtes dans quelle position, Jacques Derrida, face à cet avenir? Dans un état d'inquiétude, dans un état, je dirais, de, dans un désir très fort de réaffirmer la force de la politique. Tout simplement, je pense à un de vos livres anciens, Force de loi, qui montrait justement tous les paradoxes qu'il y a dans cette expression, mais aussi autour de la loi. Mais c'est une force, c'est une énergie, la loi. Est-ce que la loi suffit, d'après vous, à essayer de pacifier le monde que vous avez décrit à l'instant, ce monde d'inquiétude tout de même?
Oui. Non, de toute façon, l'inquiétude est grande. Je la partage avec beaucoup. Immense inquiétude. Mais la réponse à cette inquiétude me paraît être extraordinairement difficile. Mais devoir passer par une transformation profonde de la politique et du politique, du concept du politique, c'est-à-dire par une transformation profonde de l'interprétation de la souveraineté, non pas une destruction de la souveraineté, hein, mais une réinterprétation profonde de l'histoire, de ce concept, de sa mise en œuvre dans le droit international. Donc je suis pour le droit international, pour la réaffirmation d'institutions du type de l'ONU, etc., mais avec des transformations profondes. Je serais pour que, naturellement, ces institutions internationales aient force de loi, aient les moyens d'appliquer leur propre résolution sans avoir à en confier l'application à un État hégémonique, et c'est toujours les États-Unis. Je crois que c'est une refonte, et ce qui est en train de se produire, malgré tout, lentement, avec beaucoup de douleurs, de souffrances, d'inégalités de développement, c'est une telle refonte. Ça se produit dans la douleur, mais ça ne peut pas manquer d'arriver. Repenser et reconstruire un droit international qui puisse permettre des alliances entre les États pour faire face, par exemple, à ce entre guillemets, encore une fois, terrorisme indéterminé. Ça suppose des abandons de souveraineté, des partages de souveraineté, de rééquilibrage des forces économiques ou militaires. Ça suppose aussi, naturellement, que le marché, ce qu'on appelle la mondialisation, ou le marché mondial, qui commande malgré tout cela, hein, parce que tout ça, je ne veux pas tout réduire à des histoires de pétrole, mais il y a incontestablement des intérêts économiques à long terme en jeu, la croissance de la Chine, l'avenir du pétrole du point de vue de la Chine, etc. Tout cela suppose une refonte du concept du politique, c'est-à-dire du rapport entre l'État, le territoire, la nation, et puis une autre politique de la mondialisation. De ce point de vue-là, ce qu'on appelle altermondialisation me paraît répondre à cette nécessité. Alors, ce concept est encore lui-même très confus. Les forces qui se regroupent là sont hétérogènes et quelquefois chaotiques, mais je crois que l'avenir est là, dans une certaine altermondialisation.